RFI minuit 30 à Paris, 22h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et toute l'actualité africaine, c'est avec Paul Loncin-Spinelli. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. L'impatience des fidèles catholiques du monde entier à l'approche de la nomination du prochain pape. Le conclave doit débuter en effet ce mercredi au Vatican et simultanément, les évêques d'Afrique de l'Ouest, eux, se réunissent à Dakar pour l'Assemblée Générale de la Conférence Épiscopale de la Région. Une semaine après son enlèvement à Ouagadougou, toujours pas de nouvelles d'Abdulaziz Congo. Le frère du roi des Mossi a été kidnappé par des personnes se présentant comme appartenant aux forces de sécurité burkinabé. L'une des pistes d'explication, un différend presque inédit dans l'histoire entre le pouvoir et cette communauté. Et puis, Port-Soudan frappé ce mardi pour le troisième jour consécutif par les forces de soutien rapide. Khartoum rompt ses relations diplomatiques avec Abu Dhabi, accusé de soutenir les paramilitaires FSR. Mais avant de dérouler ces titres, retour sur ce match complètement fou en Italie, une demi-finale retour de Ligue des Champions mémorable et au terme de laquelle l'Inter Milan se qualifie pour la finale en éliminant le FC Barcelone 4-3. Bonsoir Sofiane Amazian.
Bonsoir Paul, bonsoir à tous.
Alors les superlatifs manquent pour qualifier cette rencontre et au final, ce sont bien les Lombards qui ont pris les devants en prolongation.
Oui, comme à l'aller, les deux équipes ont proposé un spectacle inoubliable. Rappelez-vous, il y a une semaine, 3-3, pas de vainqueur ni d'ascendant pris par l'une des deux équipes à domicile. L'Inter Milan paraît injouable en début de match. Ouverture du score logique signé Lautaro Martinez, le capitaine sorti sur blessure à l'aller. Puis juste avant la pause, le milieu arménien Henry Mkhitaryan crucifie Chesney sur penalty. À plat, Barcelone fait la grimace au retour des vestiaires, complètement inhibé, bougé par la formation milanaise. Mais cette saison, le Barça n'est jamais mort, rattraper un retard de 2 buts, cette équipe l'a déjà fait. L'Inter veut gérer en seconde période et se fait punir. Eric Garcia d'une frappe en lucarne, Dani Olmo de la tête et Rafinha pour son 13e but dans la compétition permettent au Blaugrana de passer devant au score. L'horloge tourne, le Barça s'y voit déjà, une finale 10 ans après, mais les Italiens ont de la ressource comme un symbole. Le défenseur Francesco Acerbi se mue en attaquant pour le 3-3 faisant exploser Giuseppe Meazza. Les 75 000 supporters interistes chavirent de bonheur en prolongation lorsque l'entrant Davide Fratesi fait trembler une 4e fois les filets barcelonais. Historique, fantastique, irrationnel, on se souviendra longtemps de cette double confrontation. Le Barça reste à quel Inter de son côté peut rêver du sacre comme en 2023.
Merci Sofiane Amazian. Deuxième demi-finale retour, ce sera Paris Saint-Germain. Arsenal à vivre en direct et en intégralité sur RFI.
Dakar 92 FM.
Les pieds à Dakar, mais le regard tourné vers Rome. Le conclave pour désigner le futur pape commence en effet ce mercredi au Vatican. Et au même moment, hasard du calendrier, les évêques d'Afrique de l'Ouest, eux, sont réunis au Sénégal cette semaine. Donc, la conférence épiscopale régionale y organise son assemblée générale. Une centaine de prélats des 16 pays ouest-africains doivent échanger autour de plusieurs thématiques. Par exemple, la justice et la paix dans la région. Ils suivront aussi donc les tractations qui commencent entre cardinaux électeurs. Juliette Dubois a demandé aux évêques ce qu'ils en attendent.
Continuer le travail du pape François, c'est le message qui revient le plus lorsqu'on évoque le choix du prochain pape. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est allé dans ce sens lors de son allocution devant les évêques ouest-africains.
Nous mesurons combien ces intuitions et les initiatives pastorales ont positivement influencé notre monde en quête de justice sociale, de paix, d'unité et de réconciliation.
François était connu comme le pape des pauvres et des opprimés dans un contexte de grande tension sur le plan international. Pour Paul Abel Mamba, évêque sénégalais de Tambacounda, l'action de son successeur devrait être engagée politiquement et tournée vers le vivre ensemble.
C'est la fracture entre l'Amérique et les autres pays, entre la Russie et les autres pays. Est-ce qu'on va continuer comme ça au risque d'aller vers une guerre mondiale? Donc tout ça doit nous interroger pour qu'on puisse prendre les bonnes résolutions, que ce soit les politiques, que ce soit aussi l'Église. On doit se mettre ensemble.
Le pape François s'était illustré par son ouverture en faveur des minorités, en particulier LGBT. Mais pour l'évêque nigérian Mark Maigida Nzukwen, il faudra que le prochain pape tienne un rôle de boussole morale pour les chrétiens.
So God would like us to live well.
Vous savez que l'Église, même si elle est ouverte à tous, a des principes moraux qui guident la vie des croyants et qui guident les gens vers Dieu pour éviter certains styles de vie qui vont à l'encontre des principes de notre foi.
Plusieurs cardinaux africains pourraient être des candidats à la succession, mais de l'avis des évêques, l'origine du futur pape ne fera pas de différence. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
C'est l'un des nombreux exemples qui illustrent le fossé qui s'est creusé entre le Niger et la France depuis le coup d'État de juillet 2023 et l'arrivée des militaires au pouvoir. Niamey a mis un point d'honneur à reprendre le contrôle de ses minerais et cela aux frais notamment du groupe français Orano. Lundi, dans la capitale nigérienne, les locaux du géant de l'uranium ainsi que ceux de ses filiales ont été longuement perquisitionnés et un cadre du groupe a été interpellé, Magali Lagrange.
Les locaux à Niamey d'Orano Mining et des filiales Somaïr et Cominac bouclés ce matin, mis sous scellé, inaccessibles au personnel. Leur perquisition par la DGDSE hier a duré près de 6 heures. Les hommes de la sécurité extérieure ont minutieusement fouillé les bureaux. Ils sont repartis avec le directeur d'Orano au Niger, Ibrahim Kourmo, ainsi que des ordinateurs et des téléphones portables. Joint par RFI, Orano affirme disposer d'informations très limitées sur la situation au Niger dans le contexte actuel et ne pas avoir pu joindre son représentant sur place. Les relations entre Niamey et le groupe français sont tendues depuis le coup d'État de juillet 2023. Le dialogue entre les deux partenaires est rompu. Le CNSP met en avant sa souveraineté sur les ressources nationales. Toutes les opérations d'Orano sont actuellement suspendues dans le nord du Niger où plus de 1000 tonnes d'uranium sont stockées faute de pouvoir être exportées via le Bénin. Le groupe français a perdu le contrôle opérationnel de la Somaïr. Les travaux de réaménagement du site de Cominac sont interrompus et le permis d'exploitation du site d'Imouraren lui a été retiré. Le minier français a engagé 2 procédures internationales d'arbitrage.
Magali Lagrange, le groupe Orano s'est dit ce mardi soir très préoccupé par cette situation. Les autorités de transition malienne, elles, ne devront pas compter sur l'essoufflement de la contestation née ce week-end à Bamako. Les chefs des partis politiques d'opposition ont appelé à un nouveau rassemblement vendredi après-midi dans la capitale. Une première manifestation avait été annulée après l'interdiction des forces de l'ordre samedi, mais plusieurs centaines de Maliens s'étaient quand même réunis. L'opposition voulait dire son opposition justement au projet de dissolution des partis voulus par la junte et réclamer des élections afin de mettre un terme à la transition. Les juntes amies du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui partagent des méthodes de pression comparables. Il y a une semaine, mercredi dernier, c'est le frère du roi des Mossi qui a été kidnappé à Ouagadougou. Abdoulaziz Diallo avait été enlevé par des hommes se présentant comme appartenant aux forces de sécurité et ce, en raison d'un probable différend entre la junte militaire en place et le roi Mossi Naba Onro II. Frédéric Gara, c'est pratiquement du jamais vu dans l'histoire burkinabé.
De mémoire d'historien, la seule fois où le pouvoir du Moro Naba a été pris à partie de la sorte remonte à l'époque sankariste. Au milieu des années 80, le capitaine Sankara remettait en cause le statut des rois Mossi, jugé trop féodal et aristocratique. Benoît Becher, enseignant à la Sorbonne, spécialiste de la noblesse Mossi au Burkina Faso.
Il faut se rappeler que Sankara, c'est une référence pour Traoré, au moins sur le plan de la communication. Et la politique qu'on appelait à l'époque anti-féodale, qui s'était traduite par des mesures vraiment vexatoires à l'égard du Moro Naba, ça s'est largement retourné contre lui-même. Et Sankara, qui était d'origine Peul et Mossi, avait été accusé par une partie des Mossi, proches de la cour d'ailleurs, d'être un étranger en fait. Hein. On disait même qu'il était un usurpateur Peul. Donc c'est un vrai risque que court le chef de l'État actuel hein, au Burkina, c'est de cristalliser finalement une contestation autour de l'appartenance à un ensemble Mossi, si vous voulez.
Pour Benoît Becher, cette arrestation d'un frère du roi est le ferment de tiraillement au sein d'une société burkinabé déjà passablement troublée.
Tous les pouvoirs, à part celui de Sankara pendant 4 ans, et ça lui a coûté très très cher, tous les autres pouvoirs se sont accommodés de cette monarchie et ont recherché en fait à s'en faire une alliée pour essayer de calmer les tensions politiques, etc. etc. Mais là, en tout cas, très clairement, c'est une, à mon avis, une erreur magistrale, quoi.
Une erreur politique qui pourrait être rattrapée. Selon certaines sources, des tractations auraient lieu entre le palais du Moro Naba et la présidence du capitaine Traoré sur le sort d'Abdoulaziz Kongo.
Frédéric Gara, des armes émiraties qui ont poussé Port-Soudan dans le précipice de la guerre. C'est la version en tout cas des autorités soudanaises qui ont installé leur gouvernement dans cette ville de l'est du pays de façon provisoire et ce alors que le Soudan est déchiré par la guerre depuis plus de 2 ans. Khartoum a aussi annoncé ce mardi rompre ses relations diplomatiques avec Abu Dhabi pour ce soutien aux paramilitaires FSR qui sont à l'origine de nouvelles frappes sur Port-Soudan à l'aide de drones. La cité portuaire, pourtant épargnée par le conflit, a été bombardée pour le 3e jour consécutif. Alexandra Banjon.
Vers 4-5 heures ce matin, plusieurs installations stratégiques de Port-Soudan ont été ciblées par des drones. L'aéroport à une dizaine de kilomètres de Port-Soudan, dernier aéroport international encore opérationnel dans le pays. Une base militaire à proximité, un dépôt de carburant près du port qui a aussitôt pris feu et une centrale électrique qui a privé de courant toute la ville de Port-Soudan. Pour l'instant, les autorités n'ont pas rapporté de victimes. Ce sont principalement des infrastructures qui ont été visées ces trois derniers jours. D'ailleurs, tous les vols civils ont été suspendus à l'aéroport et les Nations Unies qui opèrent depuis Port-Soudan ont temporairement interrompu leurs activités. Pour les différents observateurs, ces frappes de drones attribuées aux paramilitaires constituent un développement inquiétant. Elles révèlent d'une part la capacité des forces de soutien rapide à frapper loin de leur position et étendre la guerre dans des zones où ils ne sont pas présents et traduisent également une nouvelle stratégie des FSR, détruire les infrastructures encore existantes et notamment les voies d'entrée et de sortie du pays pour les marchandises et l'aide humanitaire.
Alexandra Brangeon, ancien ministre centrafricain qui risque la prison à vie pour tentative de coup d'État, le chef rebelle Armel Sayo, a été extradé lundi vers Bangui près de 4 mois après son arrestation au Cameroun. RFI a obtenu la confirmation de la part des deux États. L'ex-membre du gouvernement avait annoncé l'an dernier vouloir prendre les armes pour renverser le régime centrafricain. Au Zimbabwe, un journaliste a été libéré sous caution ce mardi après avoir passé 2 mois en prison. Blaise Mlanga avait été arrêté fin février après avoir mené un entretien avec un opposant. Lui ainsi que son média sont poursuivis pour diffusion de messages appelant à la violence. Le procès est prévu le 14 mai prochain, soit dans une semaine. En parallèle de sa médiation sur le conflit dans l'est de la RDC entre Kigali et Kinshasa, les États-Unis mènent un autre type de négociation avec le Rwanda. Lundi, le chef de la diplomatie rwandaise a confirmé qu'un accord migratoire préliminaire se dessinait. Alors que Donald Trump veut expulser le maximum de migrants du territoire américain, le sol rwandais pourrait les accueillir. Walid Diallo.
L'expulsion de personnes en situation irrégulière est une priorité pour Donald Trump. Début mars, le président américain a invoqué une loi de 1798 pour justifier l'expulsion vers le Salvador de migrants accusés sans preuve d'appartenir à des gangs criminels. Human Rights Watch dénonce depuis plus de 200 disparitions forcées et des détentions arbitraires. Côté rwandais, ces discussions rappellent le premier accord migratoire conclu avec le Royaume-Uni. En 2022, Kigali propose à Londres que des demandeurs d'asile et des migrants arrivés illégalement dans le pays soient expulsés vers le Rwanda. La polémique enfle, la Cour européenne des droits de l'homme intervient et ce n'est qu'après les élections et le changement de majorité au Royaume-Uni que le projet est finalement abandonné. Ces négociations entre le Rwanda et les États-Unis vont donc dans le sens de leur politique migratoire. Reste à voir si ces discussions auront une influence sur d'autres négociations, celles que mènent Washington, Kigali et Kinshasa pour tenter de résoudre le conflit dans l'est de la RDC.
Weli Diallo, cette médiation américaine entre RDC et Rwanda, justement, elle n'est pas désintéressée. Donald Trump compte bien tirer profit, par exemple, des minerais congolais. C'est une offre formulée par la RDC. Et l'hypothèse d'un accord migratoire avec le Rwanda ressemble à une contre-proposition, d'après Thierry Vircoulon, chercheur associé au Centre Afrique de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il était l'invité de Nicolas Sueur dans Afrique Midi.
Tout le monde se met au style politique de Trump et a compris qu'il faut lui proposer des deals. Donc, le gouvernement de Tshisekedi lui avait proposé un deal qui consistait à lui donner accès à son domaine minier, à son secteur minier. Et donc, le Kigali réplique en quelque sorte en lui donnant lui la possibilité d'expulser des migrants sur son territoire. Et donc, on voit qu'il y a des offres concurrentes de la part de Kinshasa et de Kigali en direction de l'administration Trump.
Mais comment les États-Unis de Donald Trump considèrent-elles le Rwanda? Quel regard Washington porte sur Kigali, selon vous?
Washington veut jouer un rôle de médiateur dans le conflit entre la RDC et le Rwanda. Ce qui est très intéressant, c'est que, en effet, au début, l'administration Trump est restée sur la ligne de l'administration Biden, c'est-à-dire en désignant le Rwanda comme l'agresseur et en imposant de nouvelles sanctions. Et donc là, il y avait une continuité. Mais Donald Trump, qui a l'intention d'avoir une victoire diplomatique sur la scène internationale, qu'il n'a pas en Ukraine, qu'il n'a pas évidemment sur Gaza, voit avec le conflit RDC-Rwanda une opportunité pour avoir un accord de paix et pour se présenter encore comme le champion du monde, si je puis dire. Et comme il n'y arrive pas sur les autres conflits où il avait dit qu'en Ukraine, ça serait réglé sitôt qu'il serait arrivé au pouvoir, il s'est saisi de ce conflit. Et donc, c'est pour ça que Washington est maintenant à la manœuvre et essaye de négocier un accord entre la RDC et le Rwanda.
Les États-Unis ne se cachent pas d'être intéressés par les minerais stratégiques de la région, mais ces minerais, ils sont massivement en RDC, pas au Rwanda. Quel rôle le Rwanda joue, selon Washington, dans cette chaîne d'exploitation et d'exportation ?
Pour le moment, il n'y a rien de très clair, mais disons que les rumeurs laissent entendre que les minerais seraient extraits dans les Kivus, mais seraient raffinés au Rwanda. Dans le cadre d'un accord entre Washington, Kigali et la RDC. On créerait cette chaîne commerciale où chacun aurait un rôle à jouer et donc en retirerait des bénéfices. Le pays d'extraction et le Rwanda qui deviendrait le pays de raffinage. Donc c'est à peu près les contours du deal qui semble être en discussion sur le secteur minier dans la zone des Grands Lacs.
Thierry Vircoulon. La justice kényane s'intéresse un trafic surprenant. 4 personnes sont jugées pour avoir tenté d'exporter illégalement 5000 fourmis vivantes enfermées dans des tubes à essai. Ces individus avaient été interpellés le mois dernier à Nakuru, dans le centre du pays. Le verdict est attendu ce mercredi. Butin estimé par la justice jusqu'à 6 700 € à la revente. Au Kenya, la faune sauvage est strictement protégée et il faut impérativement posséder un permis pour faire du commerce d'animaux. Mais cela ne suffit pas à empêcher le trafic de ces insectes, Elissa Mokadim.
Cette espèce de fourmi, la Messor cephalotes, est très recherchée pour ses couleurs vives, rouge et noir, et sa grande taille de 2,4 cm, des caractéristiques qui font monter son prix, d'où l'intérêt de les revendre à des collectionneurs en Europe et en Asie. L'entomologiste Dino Martins compare les raisons de ce trafic avec d'autres espèces.
Souvent, la motivation des gens qui achètent de l'ivoire ou des écailles de pangolin ou des cornes de rhinocéros, c'est d'avoir un objet de luxe, mais les gens qui achètent des fourmis en font des animaux de compagnie.
L'Agence nationale de conservation du Kenya soupçonne aussi un acte de biopiraterie, c'est-à-dire de pillage du vivant. Ce type de trafic n'est pas sans conséquence sur la faune et la flore.
Sans cette espèce, l'écosystème africain pourrait s'effondrer parce qu'elle est une espèce clé. Elle déplace les nutriments, elle sert comme nourriture pour d'autres créatures. Elles sont incroyablement connectées dans le paysage. Sans elles, il n'y aurait pas d'éléphants et pas d'humains.
Aujourd'hui, cette espèce n'est pas en danger d'extinction, mais elle est protégée et l'expert s'inquiète de la quantité saisie. Au Kenya, posséder un spécimen sans permis est passible d'une amende de 8 700 € ou de 5 ans de prison.
Elissar Mokadim. Et puis la communauté scientifique salue les travaux médicaux de 2 professeurs guinéens. La Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, Institut de France, a décerné cette année son prix à Abdoulaye Touré, chercheur au Centre de recherche et de formation en infectiologie de Guinée, et Alpha Cabinet Keïta, chercheur également, mais aussi virologue. Les deux hommes avaient créé le CERFIG, un centre de recherche et de formation dédié aux maladies infectieuses après l'épidémie d'Ebola entre 2014 et 2016. Abdoulaye Touré revient sur leur recherche sur ce virus, mais pas que.
Nos travaux ont aidé la communauté scientifique à mieux comprendre les séquelles cliniques et biologiques de cette maladie. Nous avons montré, par exemple, que les séquelles cliniques pouvaient persister jusqu'à plus de 5 ans et qu'une résurgence de la maladie est également possible à partir des survivants. Peut-être que c'était connu un peu, mais nos travaux ont montré récemment que la résurgence est possible jusqu'au-delà de 7 ans après la survenue de la maladie. Nous avons montré également que certains survivants pouvaient perdre des anticorps au fil du temps, contrairement à ce qu'on savait avant l'épidémie de 2014-2016. Nos travaux vont au-delà d'Ebola, vont au-delà de la Covid. C'est aussi les arboviroses, la fièvre jaune, la dengue, le chikungunya. Ce sont les maladies infectieuses qu'on appelle émergentes et réémergentes. Nous, on est très focus sur ces types de maladies qui sont à l'interface homme-faune sauvage et qui peuvent être responsables d'épidémies qui peuvent se propager au sein de la population et parfois dépasser les frontières du pays.
Un propos recueilli par Pierre Firsion, Radio France Internationale. Il est 22h49 en temps universel.
Goma, 98 FM.
Des routes cabossées, en mauvais état, qu'il faut réparer en urgence dans le sud de la République démocratique du Congo. Les couloirs du pays, notamment ceux de Lobito et de Banana, doivent être réhabilités. Un sujet qui a été abordé lors du Salon du développement des villes et des corridors Expo Béton, qui réunissait une centaine d'acteurs des secteurs publics et privés à Lubumbashi. Malgré cette situation critique, le pays peine à mobiliser des financements. C'est le dossier d'Afrique Économie, signé Denise Maillot.
Sur le tracé du corridor de Lobito, se déplacer par la route de Kolwezi à la frontière avec l'Angola est un parcours du combattant, témoigne Donat Timboge. Il est transporteur des marchandises sur ce tronçon.
Pour parcourir les 440 km, vous pouvez passer 2 semaines, 20 jours, même 1 mois. Bon, les propriétaires des camions, pour la plupart, ont décidé de retirer leurs camions de la circulation.
Cette situation n'est pas unique. La RDC a un réseau routier de 156 000 km, dont près de 4 000 seulement sont asphaltés. Le Salon du développement des villes et des corridors à Lubumbashi a recommandé l'investissement dans ce domaine. Jean Bamanissa est le directeur d'Expo Béton.
Nous avons aussi entendu des appels urgents sur le partenariat public-privé pour accélérer les investissements dans les infrastructures stratégiques.
Mais du côté du secteur public, le Fonds national d'entretien routier FONER, qui est l'organisme chargé de la mobilisation des ressources financières, connaît un déficit criant. Ses recettes proviennent à 95% de la redevance sur la mise en consommation des produits pétroliers. Alors qu'il a besoin d'au moins 950 millions de dollars par an, le FONER ne mobilise que 156 millions à cause de la fraude. Pierre Bundoki est le directeur général du FONER.
Première faute, c'est manifeste, c'est que certains produits n'arrivent pas dans les entrepôts. Deuxième niveau de faute, c'est que quand ça arrive dans les entrepôts, au moment de la sortie, tout n'est pas renseigné. À titre législatif, je veux donner l'année 2024.
Le FONER devait percevoir 458 millions de dollars.
Seulement 164 millions de dollars ont été encaissés par le FONER.
Pour l'heure, la RDC reste le maillon faible de ces corridors, faute de capitaux. Pour élever les défis, la Tanzanie a proposé à la RDC son modèle de mobilisation locale de ressources financières. Patient Mwenze est le directeur adjoint de la CRDB, une banque commerciale tanzanienne installée en RDC depuis 2023.
En Tanzanie, il y a eu le Samia Bonds. C'est en fait une levée de fonds qui a été faite. Ça a permis de lever en escrocs de 3 mois 125 millions de dollars qui sont allés dans la construction des infrastructures.
La RDC espère qu'avec les partenaires privés, elle pourra exploiter tous les corridors sud.
C'était votre chronique Afrique Économie, signée Denise Maillot.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
L'ambianceur d'Afrique Soir est avec nous. Il est en direct d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est au travail, mais il est quand même bien chanceux. Bonsoir Hervé Mandina, alias DJ Facemaker.
Bonsoir Paul, et ravi d'être avec vous depuis Babi.
Dans quelques secondes, vous allez nous dévoiler votre sélection du jour. Mais d'abord, un mot sur votre participation au Salon des animateurs musicaux et scéniques de Côte d'Ivoire, qui se tiendra les 7 et 8 mai au Musée des Civilisations d'Abidjan.
Oui, en effet, Paul, je suis invité à la 3e édition du SAMSI, organisée par DJ School Abidjan, qui est la première école de formation au métier de l'animation musicale et scénique en Afrique francophone, avec une certification reconnue par l'État et donc un statut officiel. Une initiative portée par Donald Kwame, alias Donald J. Et j'animerai un échange sur le rôle des DJ à l'heure de l'émergence des plateformes numériques. Ce sera ce jeudi 8 mai.
Et nos auditeurs attendent avec impatience vos retours d'expérience qui s'annoncent fort enrichissant. Allez, place à la musique, Hervé. Et ce sont les artistes togolais Centrinos Raphaël et Paki Shenzou qui ouvrent le bal.
Oui, vous ne croyez pas si bien dire, car c'est avec la chanson Minuit que Centrinos Raphaël et Paki Shenzou ouvrent le bal, deux figures de la scène ouest-africaine, sur cette collaboration inédite, coproduite par Bellifornia Records et Melo Records. Le R&B de Centrinos répond harmonieusement à l'énergie drill de Paki Shenzou.
Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bambola. DJ me laissait vite, vite, c'est que au néné. Oui, quand tu le mets en repeat, c'est le oulala. Oui, je suis cagoulé. Il est minuit dans la boîte de Bambola. DJ me laissait vite, vite, c'est que au néné là. Et quand tu le mets en repeat, c'est le oulala.
L'Amérique, c'est ami la dégager. Devant ton clan, je sens mes gadgets. Elle me follow, puis j'ai des clés de la ville. Faut couper avant de décaler.
On enchaîne, Hervé, avec la Sénégalaise OMG qui fait son retour.
Oui, la rappeuse Oumi Gay, alias OMG, qui marque son retour avec le single Kilometa, une chanson mbalar urbain dont les paroles en wolof évoquent la distance émotionnelle dans une relation amoureuse symbolisée par des kilomètres parcourus sans jamais atteindre l'être aimé. Le refrain répétitif renforce cette idée de séparation persistante. Ce que vous allez surtout retenir, c'est Kilometa.
Like when you bend into baby, I'm gonna need you, baby. You're my mate, you wanna know giant echo. But I don't do that in my giant echo. Mind the fun you talk when you buy into no. Then your money talk when you can into my.
Et après OMG et le Sénégal, direction le Gabon avec la chanteuse Emma qui raconte, elle, une peine de cœur dans sa nouvelle chanson.
Oui, dans le jargon, on dit qu'elle vit un goumin. Emma en est devenue spécialiste d'ailleurs à seulement 22 ans. La douce voix du R&B afro a dévoilé Ça m'a laissé, toujours sous la houlette de Sony Music Africa. Et la chanson s'est tout de suite imposée grâce à son flot d'émotions confuses, car Emma évoque la douleur d'une femme amoureuse qui vit une énième rupture alors qu'elle ne souhaitait pas tourner la page. Attention spoiler, la mélodie reste en tête.
Ah, c'était mon ex préféré. Quand je l'ai vu heureux, j'ai voulu reprendre ma chose. Ah, je faisais celle qui maîtrise. Je croyais pouvoir revenir dans sa vie quand je voulais. Je me suis trompée. Ah, je crois qu'il a fait son choix. Je l'aimais encore quand je suis retournée. Il a fait son choix. Il m'a dit d'arrêter de l'appeler.
Vous aviez raison, mélodie diablement entêtante de la chanteuse gabonaise Emma, DJ Facemaker. Votre sélection certifiée Afro Club, elle se termine ce soir sur une note humoristique au Kenya avec le groupe Matata.
Oui, Matata qui s'est associé à Bien-Aimé Baraza, membre émérite du groupe Sauti Soul. Ensemble, ils chantent Mpichi, leur nouveau titre qui signifie cuisinier en Swahili. Et leur style de prédilection, ça reste le Djengeton qui ressemble au dancehall jamaïcain. Le refrain accrocheur, aïe aïe aïe, et le rythme entraînant a rapidement propulsé le morceau au sommet des tendances sur les plateformes d'écoute en ligne. Recommandation spéciale.
Leo sapa tunakuladi Mpichi. Tushibe, mwiko refu tunafungadi mshibi. Bora tupike, kamba ya buto unaweza kongewa. Hauna mbota na bado timing unatolewa. Bora mpishi jumpishi, bora shaolewa. Easy but niko easy ganji kitolewa.
Baby don't touch me there. Mikono weka juu in the air. I miss it, touch me there. Sugar down low, find me there.
Et c'est donc avec Matata que nous refermons les portes de l'Afro Club de ce mardi en direct d'Abidjan avec vous, Hervé Mandina alias DJ Facemaker. Votre sélection, elle est disponible sur notre application RFI Pure Radio.
Et aussi sur notre site internet RFI.fr. Moi, je vous retrouve ce jeudi 8 mai avec la très attendue séquence rétro dans cette sélection. Et je laisse nos auditeurs avec vous, Paul Lancin Spinelli, maître de l'information africaine ce soir, accompagné d'Olivier Roux à la réalisation. Et je salue également Romain Ozui.
Eh ben merci. Merci beaucoup à vous.
Merci DJ Facemaker pour cet Afro Club en direct d'Abidjan.
Baby, don't touch me there. Mikono weka juu in the air. I miss it, touch me there. Sugar down low, find me there.
Et c'est en musique que se referme cette dernière édition d'Afrique Soir. Olivier Roux était encore à la réalisation. Tiens, Alexis Guilleux à la rédaction en chef, assisté de Guillaume Bédrane. Toute l'actualité africaine, quand vous le voulez, sur RFI.fr. Dans une minute, un nouveau journal. Ce sera avec Antoine Galère.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
proposer des soins de santé adaptés aux enfants victimes de violences.
Mercredi,
comment vivre avec des TOC, les troubles obsessionnels compulsifs.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Togo, conformément à la réforme constitutionnelle, Fornia Simbe n'est plus président de la République, mais président du Conseil. Un changement de fonction qui lui permet de conserver l'essentiel des pouvoirs sans limitation de mandat. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.